Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de Nu Info. Au menu, le processus de paix au Moyen-Orient est dans une impasse totale. La violence et le risque d'escalade régionale augmentent, avertit l'ONU. Réaction du secrétaire général à l'initiative du G7 pour l'Amazonie. Les réfugiés du Kasaï en Angola veulent désormais rentrer en République démocratique du Congo, selon le HCR, et en dossier coup de projecteur sur l'insécurité alimentaire en République centrafricaine. Le Conseil de sécurité a fait le point ce matin de la situation au Moyen-Orient et en particulier du conflit entre Israéliens et Palestiniens. L'envoyé de l'ONU dans la région, Nikolaï Mladenov, a prévenu le Conseil que le processus de paix était dans une impasse totale et qu'il y avait un risque accru de violence et d'escalade régionale. Jérôme Bernard nous en dit plus.
Nikolaï Mladenov a mis en garde contre le spectre croissant de la violence en Cisjordanie et à Gaza. Selon lui, la combinaison d'absence d'horizon politique, de mesures unilatérales sur le terrain et d'attaques terroristes crée un mélange explosif qui ne peut être résolu que par un leadership capable de résister aux extrémistes et aux radicaux. L'envoyé de l'ONU a rappelé qu'au cours du mois écoulé, il y avait eu une augmentation d'incidents violents en Cisjordanie, y compris de violences liées aux colons israéliens. Il a condamné toutes les attaques contre des civils palestiniens et israéliens et a dénoncé la poursuite de l'expansion de la colonisation, des démolitions et des saisies de biens palestiniens au cours des dernières semaines. À Gaza, la situation a été relativement calme au cours des deux derniers mois, mais elle reste fragile alors que les incidents violents continuent. Nikolaï Mladenov a appelé Israël à limiter son recours à la force et le Hamas à empêcher le lancement aveugle de roquettes et de mortiers vers Israël et à veiller à ce que les manifestations à la clôture restent pacifiques. Dans ce contexte, l'envoyé de l'ONU a estimé que des mesures concrètes peuvent et doivent être prises pour inverser la trajectoire négative du conflit israélo-palestinien. Il a déclaré que les Nations Unies restaient déterminées à aider les Palestiniens et les Israéliens à résoudre le conflit.
Les incendies en Amazonie ont dominé l'agenda du sommet du G7 en France, auquel a participé le secrétaire général de l'ONU. À Biarritz, les principaux pays industrialisés ont proposé une aide financière de 20 millions de dollars et annoncé le lancement d'une initiative pour protéger la forêt amazonienne. Cette initiative devrait être lancée lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre. Depuis Biarritz, Antonio Guterres réagit à l'initiative du G7 pour l'Amazonie.
Premièrement, c'est très important, il y a un appel très fort à la communauté internationale pour qu'elle puisse appuyer les pays de l'Amazonie, maintenant pour combattre les incendies et après pour la reforestation qui est essentielle, pour préserver ce patrimoine indispensable de l'humanité. J'espère qu'on puisse mobiliser bien plus de ressources dans le futur pour appuyer les pays de l'Amazonie et que la volonté politique de ces pays puisse s'engager à fond. Et en même temps, nous sommes prêts à avoir un événement pendant l'Assemblée générale des Nations Unies où les pays de l'Amazonie et tous ceux qui veulent les appuyer puissent s'engager à une volonté collective de l'humanité pour préserver ce patrimoine universel qui est absolument essentiel pour le bien-être de la population mondiale et aussi d'une façon décisive pour éviter les changements climatiques.
Les Congolais du Kasaï qui s'étaient réfugiés en Angola depuis 2017, fuyant la guerre de Kamuina-Nsapu, veulent désormais rentrer. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le HCR, l'agence onusienne pour les réfugiés, qui confirme que plus de 3000 ont traversé la frontière entre le 24 et le 26 août et qu'elle s'organise pour les accompagner jusque dans leur milieu de retour. Des accords tripartites entre l'Angola, la RDC et le HCR viennent d'être signés, les explications de Frédéric Koussig, chef de la sous-délégation Grand Kasaï du HCR.
On a des réfugiés en Angola depuis 2017 qui ont fui la guerre avec les Kamuina-Nsapu qui maintenant veulent rentrer. Pour eux, la situation s'est améliorée, c'est satisfaisant et ils veulent rentrer. La semaine dernière, on a signé les accords tripartites entre l'Angola, la RDC et le HCR. Après le rapatriement spontané, c'est-à-dire les réfugiés qui rentrent par eux-mêmes, on aura un rapatriement organisé. C'est-à-dire qu'en Angola, un partenaire du HCR va transporter les réfugiés au Congo. Au Congo, on prévoit de mettre en place un centre de transit où les réfugiés auront 36 heures pour organiser leur propre transport et continuer dans leur village. L'idée, ce serait de les assister avec un soutien financier pour qu'ils puissent payer leur transport et rentrer par eux-mêmes. On est en train de voir quels seront les besoins. On réfléchit à de l'assistance pour les abris, les maisons, parce que les gens vont devoir reconstruire.
En République centrafricaine, malgré la signature de l'accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés le 6 février dernier et l'amélioration de la stabilité de certaines zones, la situation humanitaire reste dramatique. Selon le Programme alimentaire mondial, 1,8 million de personnes en RCA sont en situation d'insécurité alimentaire grave. Pour en savoir plus sur la situation qui prévaut dans le pays et l'action du PAM, on écoute le chef du sous-bureau du programme à Bambari, Aïvi d'Almeida, au micro de Boris Ngouagouni.
Nos activités sont érigées en 5 piliers où nous intervenons dans le cadre de la distribution générale, l'appui également aux enfants malnutris. Nous faisons aussi l'opération de distribution de vivres pour les écoles, ce que nous appelons les cantines scolaires d'urgence. Il y a aussi un autre volet pour injecter des actifs dans l'économie locale en appuyant les achats locaux et aussi de manière technique en appuyant les agriculteurs.
Quelle est la situation concernant la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la zone?
La situation de la sécurité alimentaire est alarmante sur les différents axes parce qu'il y a toujours des combats sur certains axes et les populations ont des difficultés à aller cultiver dans les champs. Et même dans certaines zones, les gens n'arrivent pas à se nourrir conséquemment. Certains n'ont qu'un seul repas par jour et ces repas sont un peu dégarnis. C'est seulement des feuilles avec quelques touches de légumes et puis de céréales.
Quelle est la réponse du PAM face à cette situation?
Face à cette situation, le PAM, après une évaluation et une étude approfondie, essaie d'intervenir avec des aliments nutritionnels de qualité. Et en appuyant nutritionnellement ces différents déplacés et aussi les femmes et les enfants qui sont malnutris avec des intrants nutritionnels. Au niveau de la distribution générale, nous distribuons du céréal, du CSB, de légumineuses et de l'huile. Également, nous donnons le sel pour agrémenter tout cela.
Dans le plan d'urgence, il est aussi question de coupons alimentaires. Quelle est la nécessité d'une telle pratique?
Ça répond d'abord à un souci de diversification et en plus ça permet d'injecter de la qualité dans la nourriture des bénéficiaires, c'est-à-dire qu'eux-mêmes peuvent choisir les différents aliments à travers la distribution de coupons qu'ils échangent chez les différents détaillants agréés par le PAM. Mieux, ça permet à tout un chacun de faire son panier de la ménagère comme bon le semble et avoir les produits locaux qu'ils aiment et qu'ils peuvent consommer de manière à assurer les 2100 calories que généralement on distribue.
Combien de personnes assistent le PAM dans cette zone?
Le PAM assiste 246 000 IDP dans 89 sites et 450 000 personnes qui sont dans les familles d'accueil et les familles hôtes.
Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans la mise en œuvre de ces différentes activités?
Bon, les difficultés auxquelles nous faisons face sont d'ordre de moyens conséquents pour faire face à ce nombreux IDP et personnes hôtes. Surtout, nous avons présentement un gap important pour permettre à tout ce monde de pouvoir leur permettre de se nourrir conséquemment, qui est dans l'ordre de 6 millions de dollars. Nous avons des problèmes aussi au niveau sécuritaire. Au total, il y a 38 hotspots dans tout le pays. Et au niveau de Bambari, nous gérons 20 hotspots. Ces hotspots sont les points où les besoins sont très accrus et nous devons intervenir pour permettre de réduire la malnutrition et aussi aider les gens à mieux vivre. Mais avec nos partenaires qui ont la capacité d'agir sur le terrain, on essaie tant bien que mal de pouvoir combler ce déficit en termes logistiques.
Vous venez de parler de partenaires. Quels sont vos partenaires de mise en œuvre?
Nous avons copié la Caritas locale, il y a World Vision et nous avons aussi des partenaires étatiques comme le ministère de la Santé et aussi le ministère de l'Éducation.
Voilà la fin de ce journal de Nuit Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.